zagrebi, kiedy masz kliki, kiedy grupy masz, etc. I Salomon a fait une chanson pour lui, et où la gauche a pris le liste, devient une gauche collectiviste. C'est le mot que j'ai choisi pour désigner cette troisième famille, la gauche collectiviste. Pourquoi j'ai choisi la gauche socialiste? Eh bien, ça me permet de répondre précisément à vos questions. Socialiste en France, aujourd'hui, les socialistes, c'est un parti. Or, je ne sais pas pourquoi je vais dans ce livre une histoire de parti. J'ai voulu faire une histoire de famille. Et qu'est-ce que c'est qu'une famille par rapport à un parti? Une famille, c'est un invariant culturel. C'est quelque chose qui demeure au-delà des modalités historiques transitoires d'un moment donné. Et si j'avais dit la famille socialiste, tout le monde aurait compris, mais aurait compris que c'est la famille que représente le Parti socialiste. Moi, je ne fais pas ça. J'ai parlé de gauche collectiviste, c'est-à-dire de tous les gens qui pensent, à partir du milieu du 19e, qu'il faut que la société s'organise suivant des modalités collectives, que l'État favorise ces modalités, que entre l'individu et l'État, il doit y avoir des corps intermédiaires. D'une certaine manière, d'ailleurs, ce socialisme retrouve des impulsions de l'ancien régime. C'est qu'on ne peut pas mettre l'État à l'individu en tête à tête, qu'il faut des médiations, qu'il faut des corps intermédiaires. Le corps intermédiaire, c'est la corporation, mais ça peut être aussi le syndicat ouvrier. Et à partir des années 1870, c'est même les partis ouvriers qui inventent véritablement les partis en France. Et donc voilà cette troisième famille qui apparaît et qui fait de la gauche, qui était partie de l'individu, une sorte de parti du social. Évidemment, la droite s'engouffre dans le vide qui est ainsi créé, et la droite qui a défendu des valeurs collectives jusqu'alors, devient, à certains égards, la championne de l'individu contre tous ces corps intermédiaires, contre ces collectivités qui écrasent l'individu. Donc une sorte de chiasme, une sorte d'inversion, elle n'est pas totale, parce que les socialistes ne renoncent pas à l'individu, la droite ne renonce pas aux corps intermédiaires, mais enfin il y a ce chiasme. Et pour un instant, je me place dans la situation d'aujourd'hui. À quoi assistons-nous? C'est pour ça que j'ai dit que c'est quand même la fin d'une période. C'est que la gauche, socialiste ou non, le camp de la gauche, redécouvre l'individu. Une bonne partie des batailles qui sont menées entre la gauche et la droite portent sur le primat ou non de l'individu. Il me semble que depuis une trentaine d'années, les partis de gauche ont plus fait avancer des causes individuelles, ça va depuis l'assouplissement des lois sur le mariage, l'avortement, aujourd'hui l'homosexualité, mais on pourrait multiplier les choses qui sont là, c'est le climat de l'individu. Entre-temps, il y a eu 68, qui est une insurrection de gauche, mais profondément individuelle. Et ça me permet d'arriver à la quatrième famille, parce que René Raymond avait distingué trois familles, les légitimistes, les bonapartistes, les orléanistes. Moi j'ai trouvé qu'il y a trois. Lui il avait distingué par exemple quatre droites, et moi j'ai distingué. Il avait distingué trois droites, et moi j'ai distingué quatre gauches. Parce que je pensais impossible de faire l'impasse sur la famille, que je n'appellerais pas anarchiste, parce que anarchiste est déjà en partie. Et en partie anarchiste. Il y a des partis anarchistes. J'ai appelé libertaire. Parce que libertaire, c'est un état d'esprit. On dirait que ces gens-là n'ont pas de représentation au Parlement. Et oui, puisqu'ils sont contre le système parlementaire, d'ailleurs, s'ils essayaient, je ne crois pas qu'ils auraient beaucoup d'élus, mais ça, c'est une autre affaire. En revanche, cette famille libertaire, et qui à certains moments n'est pas grand-chose, à d'autres moments, elle occupe presque tout le champ. C'était le cas dans la commune de Paris, même, cet État en 68, où il n'y avait plus ni communiste, ni socialiste, parti du terme, plus de radicaux, il y avait des gens qui se réclamaient une sorte de parti de la liberté de la Belgique. Donc, vous voyez aujourd'hui combien dans les mentalités, pas au Parlement, mais dans les mentalités, l'idée que vous trouvez même chez les ménagères de moins de 50 ans, dans les débats à Europe 1 ou RTL entre 10h et midi, c'est une sorte de libertarisme, dégénéré. C'est l'idée qu'on a tous sorti d'idée, que tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut, que toutes les opinions se valent, et qu'on a le droit de faire ce qu'on veut. C'est la dégradation de l'idéal libertaire d'opposition à l'autorité, à l'État, en une sorte d'atomisme petit bourgeois, consiste à dire, voilà, tout ce monde, et chacun fait ce qu'il veut, chacun chez soi. Toute la vie politique a sa version caricaturale. J'ai donné celle-ci pour faire comprendre. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne pouvait pas faire l'impasse sur la famille libertaire parce que l'idée d'une insurrection contre les pouvoirs déterminés, elle est dans toutes les têtes, même les têtes les plus conservatrices, favorables à l'ordre. Aujourd'hui, on est dans des sociétés libertaires, et ça rend d'ailleurs le gouvernement de cette société extrêmement difficile. Voilà, en gros, ces quatre familles, j'aurais pu détailler davantage, j'ai presque passé tout de suite sur les deux manières, j'aurais simplement ajouté deux choses sur ces deux familles. La famille libérale. Et la ceci particulier, la famille libérale, que c'est la seule des familles françaises qui est un pied à gauche, un pied à droite. Il y a un libéralisme de droite. Ça correspond en gros à ce que René Raymond appelait la famille orléaniste. Et ces gens qui sont de droite, mais qui pensent que le plus important, c'est pas l'État, c'est même pas des partis de droite, ce sont des institutions sociales. C'est l'entreprise, c'est la famille, etc. C'est le libéralisme de droite qui, au fond, se fiche un petit peu des régimes. Qu'on soit en République, en monarchie, sous l'Empire, l'essentiel, c'est que la société civile, que le droit des individus de faire leurs affaires, au sens fort des affaires, que ce droit soit respecté. Ça, c'est le libéralisme de droite. Mais il y a un libéralisme de gauche. C'est lui qui a gouverné le plus souvent sous la Troisième République. Cette famille est là au début du siècle, avec Benjamin Constant, son image idéale, et puis une bonne partie des gouvernants de la Troisième République, de Gambetta à Ferry, peuvent faire partie, on peut, je pense légitimement, les classer dans une sorte de libéralisme de gauche. Quant à la famille jacobine, alors ça c'est très particulier, cette histoire. Le Furet, c'est une invention ex nihilo de la Révolution française. Il a raison. Il n'y a pas de jacobin allemand ou anglais, bien sûr. Il y a des gens en Angleterre, en Allemagne, qui insistent davantage sur le rôle de l'État, qui n'ont jamais trouvé le besoin de se constituer en partie. En France, il y a un jacobinisme, c'est-à-dire des gens qui pensent que l'État n'est pas le problème, comme le croient les anarchistes. Ils pensent que l'État, c'est la solution. Et là aussi, voyez combien chacun d'entre nous pense ça. Quand on a un problème, on dit qu'il faut que l'État fasse quelque chose. On dira, oui, c'est ça. Jamais aux États-Unis, dont je vois qu'ils ont aussi des problèmes de chômage, les Américains nous disent, l'État, Obama n'a qu'à se débrouiller. Bien sûr, s'il y a moins de chômage, ça profite à Obama. Mais enfin, Personne ne pense que c'est à Obama à créer des entreprises. En France, on pense tout. Et on pourrait modifier les problèmes. Donc, de même cas, quelque chose de libertaire dans chacun d'entre nous, à des doses variables, je m'en pourrais le dire, mais il y a quelque chose de jacobin en quelque chose dans chacun de nous. C'est l'idée que l'État est, au fond, la grande puissance et la norme de vivement actuel. Je dis bien de vivement actuel. Un intellectuel éprouve beaucoup de scrupules à recevoir de l'argent d'une entreprise. Il a l'impression de déroger, de se prostituer au capitalisme, etc. Mais si c'est l'argent d'État, il est tout à fait d'accord. Quel que soit le sort. Parce que l'État, c'est une gigantesque lessiveuse qui blanchit l'argent et qui fait de cette chose horrible quelque chose de parfaitement sain avec santé. Sain parce que l'argent est sain parce que l'État l'a en quelque sorte sacralisé. Donc vous voyez, ce jacobinisme est très important. Alors quelle est ma conclusion? Pas trop longtemps. C'est que vous voyez bien qu'entre les familles et les partis, il y a une grande différence. Chaque parti français a un pied, deux, parfois trois, dans des familles différentes. Je prends le cas des radicaux sur la Troisième République. C'était des gens qui étaient jacobins dans toute l'équipe, la République, la Révolution, Clémenceau, la Révolution est un bloc, c'est pas vrai, il ne pense pas, mais il le dit pour embêter les curés. La Révolution est un bloc, etc. Mais en même temps, ces mêmes radicaux sont parfaitement libéraux en économie. Donc, quelle difficulté de penser la gauche, et là je dirais que je les amène progressivement au cœur, si on peut dire, du moins des difficultés qu'il essaie de résoudre, c'est qu'il y a un décalage permanent entre ces familles, dont je rappelle qu'elles sont des invariants culturels, la religion de l'État, il y a même des gens à droite qui ont cette religion de l'État, la famille de Debré, Michel Debré et ses fils ont cette religion. Et puis alors les partis, voilà, ils ont un peu de... On est le Parti communiste, c'est un parti qui est collectiviste en principe, mais c'est un parti aussi qui est jacobin. Les communistes français empruntent beaucoup à la mythologie jacobine. Donc, moi j'ai pas fait l'histoire des partis, je trouve ça assommant. Hein, par exemple, je vais prendre un exemple à droite. Le Parti communiste, il a changé 6 ou 7 fois de nom depuis le général de Gaulle. Il s'était appelé RPF, ensuite RPR, ensuite UD5e, après maintenant il s'appelle UMP, rapporteur. Moi je trouve pas très intéressant de faire l'histoire de ces mutations, parce qu'au fond, ça ne change pas grand-chose, et surtout, ça n'explique pas grand-chose. En revanche, si comme le disait Brodel, qui a quand même été un de mes maîtres, j'ai toujours été un disciple infidèle, enfin, je me réfère parfois de l'enseignement de Brodel, il y a quelque chose de profond dans la politique, c'est pas dans ces mutations, je dirais, à fleur d'événements, dans l'écume de l'événement. Le politique, dans ce qu'il a de profond, c'est pour ça qu'il nous bouleverse tellement que voter c'est un acte religieux. C'est que la politique engage non seulement nos convictions, mais la partie, disons-le, inconsciente de nous-mêmes. Nous votons non seulement avec nos convictions, nous votons avec des traditions, nous votons avec quelquefois un inconscient que nous ne connaissons pas. Vous devez, je cite, c'est en anglais, mais il y aura quelque bien la vérité. Nous devons voter, vous devez voter, monsieur, c'est un lord anglais qui parle à son fils, vous vais voter monsieur avec votre famille et non avec vos convictions dans votre aventure. Ce mot est formidable. Voter avec sa famille. Voter à droite. Voter avec sa famille. Bien que quelquefois, on a une famille de gauche, on vote quand même à gauche. Mais voter avec ses convictions comme un aventurier, ça c'est la révolution française, et pour le genre anglais, c'est la domination. Si on se met à voter avec ses convictions, alors ça, c'est la fin de la société, c'est la dispersion des opinions dans ces algorithmes, c'est la fin des corps constitués. Donc, j'ai essayé de traiter de politique, non pas comme un microcosme, pour parler comme vraiment bas, hein. Pas comme un microcosme, mais comme quelque chose de profond, chacun d'entre nous. Voilà.
Merci, je